D'accord. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christian Hazard, je suis un doctorant à l'Institut français de géopolitique. Je suis aussi un chercheur au CIRA. Aujourd'hui, je présente une analyse géopolitique du djihadisme en Libye en prenant l'exemple de l'État islamique. Et l'objet de la conférence d'aujourd'hui s'agit de mettre un accent sur la présence de l'État islamique en Libye, qui est un exemple révélateur de plusieurs faits géopolitiques. Et cela nous permettra de comprendre l'implantation de l'organisation, le contrôle territorial et le type de mobilisation employée, et après finalement le repositionnement selon le contexte. L'intérêt de cette conférence, c'est de aussi montrer un moyen de compréhension du contexte libyen qui a mené à l'émergence de l'État islamique et aussi la mobilisation employée dans le cadre d'un contrôle territorial en Libye, l'analyse des capacités mobilisatrices de Daesh en Libye et au-delà, en mettant un focus sur l'attentat de Manchester en 2017 et le pays voisin comme la Tunisie et l'Égypte. La mobilisation est suite à leur perte territoriale en 2016 et leur repositionnement en adoptant une stratégie de loup solitaire ou de djihad individuel, et après l'importance actuelle de la Libye pour l'organisation de l'État islamique. Bon, il y a un ensemble d'éléments qui ont permis à l'État islamique d'émerger en Libye. Et premièrement, c'est le contexte national marqué par le vide étatique causé par la mort de Al-Kadhafi. Et après, en 2014, on a témoigné une sorte de fragmentation politique dans le pays. Et suite à l'apparition de Khalifa Haftar, c'est le maréchal qui dirige et contrôle l'Est du pays, cela a créé une sorte de rivalité pouvoir entre l'Est et l'Ouest sur la gouvernance du pays. Le contexte libyen traduit par l'absence d'un pouvoir étatique centralisé aboutit à l'implantation de l'organisation de l'État islamique ainsi que d'autres mouvements islamiques. Cette fragmentation a donné l'occasion à l'État islamique de se présenter comme l'acteur qui peut remplir ce vide trouvé en Libye suite à l'absence d'un pouvoir central et aussi un appareil étatique qui fonctionne. Ce contexte se converge avec l'appel fait par l'État islamique en juin 2014 en s'adressant à tout le mouvement djihadiste au monde de rejoindre l'organisation de l'État islamique. Dans ce contexte, un mouvement désigné comme djihadiste avait apparu à la ville appelée Derna en avril 2014. Ça se situe à l'est du pays. C'est aussi qui revendique la restauration de la charia s'appelle... Ce mouvement s'appelle le Conseil de la Shura de l'Islam. Donc, pour comprendre dans un cadre d'analyse géopolitique, il faut se poser la question, pourquoi l'Est de la Libye surtout? Donc, il faut faire un petit rappel historique, parce que la géopolitique consiste tout d'abord à comprendre le pourquoi et le comment pour pouvoir mettre un accent sur un contexte ou situation complexe. Le contexte historique de l'Est de la Libye montre qu'il y avait une mouvance djihadiste qui est apparue dans les années 80 et depuis cette période qui se caractérise par la montée de ces courants dans les pays arabes comme la Syrie et l'Égypte. Mais ces courants-là qui est apparu et qui a été fondé en 82 à la ville de Benghazi, il n'était pas assez fort. Donc on peut aussi considérer que le mouvement qui s'est mobilisé en tant que djihadiste qui s'appelle Al-Jama'a al-Islamiyya al-Muqatala ou le groupe islamique combattant, c'est la vraie naissance de la mouvance djihadiste à l'est de la Libye en 90. Celui-ci a été fondé par les Afghans arabes, donc c'est un terme qui est médiatisé dans les pays arabes, qui décrit les arabes revenant du djihad en Afghanistan. Ce groupe a été fondé au Pakistan en se reposant sur l'expérience militaire et djihadiste acquise sur le terrain. Leurs activités djihadistes se trouvaient majoritairement dans les villes de l'Est comme Derna, Benghazi et Ajdabia. En 1995, le groupe islamique qui a été fondé en Pakistan a réussi à s'implanter dans l'est du pays. Depuis son implantation officielle sur place jusqu'en 1998, il y avait une confrontation avec le régime politique en place et s'est exprimé toujours par la violence politique. On a remarqué aussi que dans leur communiqué, ils utilisaient beaucoup de termes djihadistes comme le Hakimi, un terme qui a été fondé par Saïd Qutb. Et après ces groupes, après l'emprisonnement de cadres, il a fait des révisions et il a négligé sa doctrine djihadiste en 2010. Il faut dire que le type de djihad à l'époque dans les pays arabes était différent et s'est reposé sur des mouvements de djihad local qui ciblent principalement l'ennemi proche, c'est-à-dire le régime politique en place. Donc, si on prend le Conseil de la Shura de l'Islam, qui a été fondé en 2014, qui deviendra plus tard la branche de l'État islamique en Libye, ça nous amène vers un autre tournant du djihad mondial. Donc, c'est un tournant qui témoigne un recrutement au niveau organisationnel et pas seulement individuel. C'est-à-dire que l'État islamique cherche de recruter aussi des groupes djihadistes locaux. Et on va comprendre pourquoi. Avant le fait, avant, il faut aussi analyser le processus de prêter allégeance d'un groupe djihadiste local. Avant le fait de prêter allégeance officiellement, il y a toujours une sorte d'approchement entre un mouvement djihadiste local et une organisation djihadiste mondiale comme celle de l'État islamique. Donc, effectivement, en juin 2014, l'organisation de Majlis Shura Shabab al-Islam avait publié un communiqué qui soutient al-Baghdadi et son organisation. Il n'y avait pas officiellement une allégeance ni une dépendance idéologique parce que le processus de prêter d'allégeance d'une organisation de djihad mondial signifiait une sorte de mutualité d'intérêt. Donc, ça signifie que, d'une part, le groupe djihadiste local cherche des ressources, c'est-à-dire logistique, médiatique, mais aussi une puissance sur la carte internationale du djihad. Ça permet à ces groupes-là d'avoir beaucoup plus d'importance. D'autre part, le pouvoir central, je parle de l'hierarchie de l'État islamique, vise à recruter des branches affiliées comme celle de la Libye à travers le recrutement d'un mouvement local. Pourquoi ? Parce que ça aide ou ça permet à l'organisation de l'État islamique d'avoir des branches au-delà de la Syrie et de l'Irak et aussi de recruter des individus. Pour qu'un mouvement de djihad local prête allégeance à l'État islamique, il est nécessaire de faire avant tout un encadrement idéologique qui détermine leur mobilisation. En octobre 2014, cette organisation décide officiellement de prêter allégeance à l'État islamique et faire une sorte de dépendance idéologique et organisationnelle. Donc ils ont fait un communiqué qui confirme que la ville de Derna fait désormais partie du califat. Comme vous voyez là, c'est la première apparition de groupe local. Et après, même, il déclare officiellement qu'il prête allégeance à l'État islamique. Et ils appellent aussi la population locale à faire pareil. Pour comprendre aussi que, avant tout, ils avaient un slogan qui porte leur nom en tant qu'un groupe de djihad local. Et après, ils ont changé en portant le drapeau de l'État islamique. Donc, ça signifie que ces mouvements s'inscrivent désormais dans le projet djihadiste de l'État islamique. Un projet transnational qui sert avant tout les intérêts de l'État islamique et pas seulement les intérêts au niveau local, voire national. Et suite à leur déclaration de prêter allégeance à l'État islamique, et le projet de cette branche libyenne affiliée à l'État islamique, s'agit de sécuriser la ville face aux chaos présents en Libye. Donc, on va remarquer aussi que cette implantation en Libye s'est poursuivie par une sorte de démarcation de frontières. Afin de comprendre la mobilisation de l'État islamique, il faut faire une sorte d'analyse géopolitique pour comprendre comment ils peuvent se mobiliser au-delà de frontières, en prenant en considération aussi l'enjeu de frontières. Daesh adopte une sorte de stratégie de démarcation des nouvelles frontières. Donc l'État islamique adopte cette stratégie depuis novembre 2014, qui se repose sur la déconstruction de frontières nationales établies, en le remplaçant par le wilayat. Le leader de l'organisation de l'État islamique, Abou Bakr Bagdadi, a déclaré son intention de refaire une démarcation de frontières en Libye. Donc, la nouvelle Libye, selon lui, se compose de 3 wilayats qui sont Tripoli, Fizan et Barka. L'État islamique a donc annoncé que la Libye consiste de 3 wilayats ou émirats. Chaque wilaya regroupe un ensemble de villes en Libye en ayant une propre administration locale. Par exemple, wilayat Barka regroupe les villes de Derna, Benghazi, Ajdabia. Encore, wilayat Tripoli regroupe la capitale, ainsi que Sirte, Bani Walid et Sebrata. Et finalement, Fezzan, troisième wilaya, s'agit de l'ensemble des territoires du sud-ouest de la Libye. Il faut préciser que malgré la déconnexion de cette stratégie vis-à-vis de la réalité géopolitique en Libye, celle-ci porte une réalité historique révélatrice. L'État islamique avait l'intention de mettre en place la même répartition territoriale que l'Empire ottoman en Libye. Étant donné que l'Empire ottoman a configuré territorialement la Libye en mettant en place 3 wilayats appelés Tripoli, Barka et Fezzan. Je vous montre. Qu'est-ce que ça ressemble? Donc c'est une carte qui a été faite par l'État islamique pour pouvoir aussi redésigner la frontière selon le système de wilayats. Donc, la représentation géopolitique qui a été mobilisée par l'État islamique a été évidemment consciente. Il s'agissait de attacher la Libye autant que wilayat sous l'administration du pouvoir central de l'État islamique. Cette stratégie, qu'il s'agit de désigner de nouvelles frontières, consiste à mettre en place une sorte de ce que j'appelle administration djihadiste locale. Le contrôle territorial de l'État islamique et la mise en place d'une administration djihadiste locale fait partie de la mobilisation de cette organisation en Libye. La mobilisation de l'État islamique vise à faire présenter le mouvement en tant qu'acteur capable de mettre l'ordre à travers l'imposition de sa forme d'administration locale. Ça veut dire que l'administration djihadiste locale imposée par l'État islamique cible principalement la mise en place des institutions publiques telles que le service policier et le tribunal et outre. Cette stratégie d'administration djihadiste locale permet à l'État islamique de présenter son mode de gouvernance comme capable de remplir le vide étatique présent en Libye. L'État islamique a employé des services policiers en commençant par l'Est, surtout wilayat Barka. Cette stratégie, quand ils mettent l'ordre et quand ils imposent leur monopole sécuritaire, renforce l'administration djihadiste locale, car celle-ci fait mobiliser la présence du mouvement comme protecteur de la ville ainsi que la population. L'État islamique s'est mobilisé en tant que force étatique censée protéger le territoire contrôlé à travers ce modèle de gouvernance. Donc on voit qu'ils ont fait mobiliser de forces policières en prenant leur forme d'un État conventionnel. Et ils ont commencé par la sécurité et ça leur a permis d'assurer l'incarnation de leur représentation de l'État islamique sur le terrain. Donc ils ont accompagné ces services policiers par un cadre religieux, éthique, qui correspond à leur représentation. L'organisation djihadiste a employé le force de Al-Hizba. Donc, c'est une sorte de force qui s'engage à mettre un cadrage religieux, éthique, dans le territoire contrôlé par l'État islamique. Donc, et ça, avec pour objectif de mettre fin aux comportements contraires à leur représentation, tels que la consommation des cigarettes. Donc, je peux vous montrer. Par exemple, ils font une sorte de confiscation de cigarettes et aussi des éléments qui sont contre leur cadre éthique. Et après, ils prennent même le nom de Ashurta al-Islamiyya, c'est la police islamique. Donc, pour compléter le modèle d'administration djihadiste locale, ils ont mis en place aussi un cadre juridique qui vise à mettre un cadrage de relations au sein de territoires contrôlés par le mouvement. Donc, l'organisation d'État islamique a mis en place un tribunal djihadiste ayant pour objectif d'appliquer leur représentation. L'objectif de ce tribunal est d'exécuter la représentation de l'État islamique. Évidemment, ils ont mis... Donc, Al-Mahkama al-Islamiyya, c'est-à-dire le tribunal islamique aussi. Donc, ces cadres juridiques ou sécuritaires caractérisent la forme de gouvernance de l'État islamique qui est mobilisée comme mode protectionniste de la population et, autant dit, l'administration djihadiste locale. Donc, il faut dire que la mobilisation de l'État islamique ne se réduit pas à la violence politique, vu qu'il y a un autre type de mobilisation sociale. Et on a vu que le terrain libyen a témoigné la diffusion de leur représentation par la diffusion des tracts, par un travail médiatique fort sur le terrain pour faire aussi convaincre la population locale par leur représentation religieuse. Donc, Oulaïd Barka, ça, c'est toujours le début, a mobilisé la stratégie de l'appel, ou ce qu'ils disent, al-da'wa, en organisant de conférences adressées à la population locale afin d'incarner la représentation de l'État islamique. La première conférence de l'État islamique a eu lieu en 2014 à la ville de Derna, qui avait objectif de présenter à la population locale la représentation politico-sociale du mouvement. Mais il faut dire que le contrôle territorial de l'État islamique à Sirte était le plus fort, et on a vu comment l'État islamique s'immobilise. Jusqu'au point que l'envoyé spécial de l'ONU, Martin Kobler, en 2016, il a dit que le seul gouvernement qui fonctionne en Libye est celui de l'État islamique. Ça montre comment il y a une absence totale de l'appareil étatique en Libye, et l'acteur sociopolitique tel que Daesh a réussi à remplir ce vide. La mobilisation de l'État islamique ne se limite pas seulement à l'échelle nationale, mais aussi au-delà. Donc il y a une mobilisation au-delà de frontières libyennes. On peut témoigner que si on fait aussi une analyse géopolitique, on va voir que, vu qu'il y a une sorte de proximité vis-à-vis de l'Europe, la branche libyenne affiliée à l'État islamique a pu passer à l'action et en faisant un attentat à Manchester en 2017. Donc, ces branches-là font preuve d'une capacité de se mobiliser au-delà de frontières nationales. L'attentat de Manchester en 2017 est révélateur de plusieurs faits géopolitiques. Premièrement, ils ont montré leur capacité de recruter à distance, à travers les frontières, de faire une sorte d'échange d'expériences djihadistes, et de fournir d'aide logistique. Donc, l'auteur de l'attentat, appelé Salman Abidi, a été recruté sur place à Londres par un recruteur affilié à l'État islamique. Ça montre que l'État islamique a pu implanter leur recruteur au sein de l'Europe. Et aussi, il a été attiré par la propagande médiatique de l'organisation. Et cet auteur est rendu sur place au Libye. Il a eu un entraînement militaire et d'échanges d'expérience par la branche affiliée de l'État islamique en Libye. Et pour montrer le degré de dépendance logistique, quelques minutes avant de passer à l'acte, l'auteur de cet attentat, elle a fait deux appels téléphoniques avec deux individus en Libye en lien avec l'État islamique. Ça montre qu'il y a une dépendance à distance. La branche libyenne de l'État islamique aussi a réussi à passer à la violence politique au sein de pays voisins, comme la Tunisie, par exemple. L'attentat de 2016 à la ville tunisienne de Ben Gherden montre l'aide logistique fournie par les individus de la branche libyenne. Donc la question aussi, okay, ils ont fourni l'aide logistique comme le type d'armement, l'échange aussi d'expérience militaire, mais l'influence dans l'échelle tunisienne se remarque aussi par le recrutement. La question, cette question est très présente à l'échelle tunisienne. Pourquoi ? Parce que il y a plus de 3000 Tunisiens qui ont été recrutés par la branche libyenne. Encore plus, Abou Yahya al-Tonsi, c'est un cadre de l'État islamique en Tunisie, a demandé de Wilayat Tripoli en 2015 de entraîner les individus tunisiens pour pouvoir rétablir et restaurer le charia sur place en Tunisie. Ça montre à quel point et l'État islamique est contre les frontières établies, mais ils sont aussi conscients qu'il faut aller au-delà. Évidemment, les pays voisins qui ont été influencés, ce n'est pas seulement la Tunisie, mais aussi l'Égypte. Ils ont pu passer à l'action en commettant un attentat contre un bus au centre de la ville d'Almenia, au sud d'Égypte, en 2017. Après ces types de contrôle et d'influence de l'État islamique, c'est un tournant, mais après il y avait l'autre tournant de la perte qui se remarque par la perte de contrôle territorial à partir de 2016, qui révèle sa stratégie pendant une période de pression. Donc, depuis ces moments-là, le gouvernement de la Wefaq, situé à l'ouest, a lancé une opération militaire qui s'appelle Al-Bunyan al-Marsous, qui a mis fin au contrôle territorial fait par l'État islamique, surtout à Sirte, en décembre 2016. L'absence territoriale de l'État islamique a fait révéler une autre stratégie que j'appelle la politique de non-alliance, qui a pour objectif de ne pas rejoindre ni les camps dominés par les islamistes dans l'Ouest, ni celui qui est dominé par le maréchal Haftar dans l'Est. Cette politique de non-alliance est principalement pratiquée par les États, tels que la Suède, pour des raisons diverses, comme le maintien de l'équilibre à l'échelle internationale, et qui vise à refuser de rejoindre un des deux camps présents. Donc, dans le cas de l'État islamique, la politique de non-alliance mobilisée revient au fait que l'organisation djihadiste n'a pas l'agilité idéologique de faire d'alliance avec d'autres forces qui ne partagent pas identiquement le même cadrage idéologique. Il faut aussi souligner qu'il y a d'autres mouvements djihadistes, mais il y a une sorte de divergence en termes d'allégeance, en termes d'intérêt, en termes aussi d'alliance avec d'autres mouvements islamistes qui ne se présentent pas comme djihadistes. Donc, pendant cette stratégie de non-alliance, l'État islamique a voulu se repositionner dans le vide étatique qui se présente en Libye jusqu'à maintenant. Okay. Il faut souligner qu'il y a des confrontations militaires, il y avait des confrontations militaires contre l'État islamique, menées par le gouvernement de Tripoli, qui a mis fin à leur contrôle basé sur le système de wilayat. Donc, Et l'État islamique a montré qu'il cherche avant tout à se mobiliser conscientement parce que la nature organisationnelle de celle-ci illustre le fait que le mouvement cherche à retrouver une place malgré son affaiblissement. L'organisation fondée par... Donc il faut faire aussi un rappel historique pour comprendre pourquoi l'État islamique continue à se mobiliser. Donc l'organisation qui a été fondée par Abu Amr al-Baghdadi en 2006, en ayant le nom de l'État de l'Irak islamique, témoigne le fait que le mouvement vise à se mobiliser de manière permanente malgré sa fragilisation. Le mouvement a connu un contexte d'affaiblissement suite au meurtre de son fondateur Abu Amr al-Baghdadi en 2010. Et suite à cela, Abu Bakr al-Baghdadi a été choisi par le conseil de la Shura du mouvement de l'État de l'Irak islamique comme calife en 2010. Okay. Ce mouvement a cherché son repositionnement pendant cette période de faiblesse. Effectivement, Abu Bakr al-Baghdadi s'est profité de l'absence du pouvoir central en Syrie suite à la guerre syrienne en 2011. Et le calife a pu réimplanter son organisation, un contexte qui a nécessité le changement de son organisation en ayant le nom de l'État islamique en Irak. L'État islamique, et après, il a fait un remplacement par le terme de l'État islamique en Irak et au Levant en 2013. Et cette stratégie de repositionnement montre aussi la nature de l'organisation qui cherche toujours à se réimplanter dans le territoire où il y a toujours un vide étatique. Et quand on compare ça au contexte libyen, on va comprendre que suite à la fin de leur système de wilayat, ils sont regroupés au sud pour pouvoir se repositionner de nouveau dans le pays. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés dans la nécessité de se diriger vers le sud pour pouvoir trouver une autre forme de leur présence. Donc, ça montre aussi qu'ils doivent changer de stratégie selon le contexte. Donc, un contexte de contrôle territorial se base principalement sur les Émirats et après un contexte de fragilisation et nécessite avant tout un repositionnement pour pouvoir trouver une place de nouveau. Le mouvement a trouvé une nouvelle forme qui s'appelle l'armée de la désert. Donc cette armée-là et regroupe trois brigades de l'État islamique et qui se charge de faire des actes violents contre les deux camps présents en Libye, soit celui qui existe à l'est, soit l'autre qui existe à l'ouest. Et ça montre aussi qu'il y a aussi une agilité, une flexibilité de changer de forme selon le contexte. Donc, il faut aussi dire que quand une branche affiliée à l'État islamique fait un repositionnement, il doit prêter allégeance de nouveau à l'État islamique pour confirmer que la nouvelle structure est dépendante de l'hierarchie de l'organisation. Donc, ils l'ont fait il y a quelques mois. Mais suite à cette stratégie, ils ont adopté aussi leur nouvelle forme de mobilisation qui s'appelle le loup solitaire ou le jihad individuel. Donc, le discours récent de Abu Bakr al-Baghdadi, qui a été fait en avril 2019, affirme le fait que l'organisation témoigne son deuxième tournant de restructuration. Le leader de Daesh se présente désormais en tant que Amir al-Mu'minin, donc l'amir des croyants, plutôt que calife. Ça montre que même l'État islamique reconnaît la défaite territoriale. Une déclaration révélatrice du fait que Daesh reconnaît sa défaite et que l'organisation décide de ne pas se mobiliser pour l'instant en tant que califat. Daesh décide donc de prendre du recul par rapport à leur mobilisation, d'instaurer le califat, afin de reconstruire l'organisation. Al-Baghdadi, pendant ces discours-là, a félicité la branche libyenne pour sa capacité d'épuiser l'ennemi. Il les appelle à continuer cette stratégie d'épuisement des ressources en visant les intérêts humains, militaires, économiques et logistiques afin d'épuiser les États. Donc, cette stratégie-là fait référence toujours au livre de Abu Bakr al-Najji, qui s'appelle l'administration de la sauvagerie. Donc, il y a toujours 10 étapes pour pouvoir instaurer le califat. Avant tout, il faut épuiser l'ennemi pour pouvoir trouver une place et administrer la sauvagerie. La branche libyenne continue jusqu'à maintenant à adopter cette stratégie qui s'appelle le loup solitaire. Bon, c'est une appellation médiatique, mais qui date depuis 2004, même avant. Mais cette arme s'appelait le jihad individuel. Donc ça montre que c'était une stratégie qui n'était pas du tout novatrice. Ça a été fondé par Abu Musa al-Ansari, donc dans son livre fameux « L'appel islamique à la résistance mondiale », qui appelle à faire de sortes de petites cellules pour pouvoir passer à l'action et épuiser l'ennemi. Parce qu'il a vu que les services de renseignement partout sont au courant de leur type de mobilisation centrale organisationnel. Donc il faut faire ou adopter une sorte de jihad individuel pour pouvoir passer à l'action plus facilement. Et pour passer aussi à l'action plus facilement, il faut aussi montrer que cet auteur-là, il a fait une analyse de forces militaires conventionnelles, de services de renseignement en place, pour pouvoir dépasser les capacités des armées conventionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait, au début des années 2004, il y avait des blogs djihadistes qui apprennent aux individus membres de mouvances djihadistes comment passer des messages sans être tracés par les services de renseignement, comment faire des bombes à la maison, comment essayer de communiquer avec les hiérarchies et par quels moyens il faut aussi créer des réseaux pour comprendre les acteurs clés qui seront ciblés parmi le rang de l'ennemi. Un exemple facile, on a vu que j'ai fait avant une interview avec un ancien cadre de Osama Bin Laden. Donc maintenant, il est déradicalisé. Mais il montre comment la stratégie de loup solitaire ou des jihad individuels se base sur trois étapes avant tout. Donc il y a la préparation de projet d'attentat. Donc qui est la cible et pourquoi. Et après, et la demande d'aide logistique comme des individus, des informations et des armes. Et après, le passage à l'action. Et il faut avant tout documenter l'action parce que ça montre la glorification d'un mouvement djihadiste et dont le fait qu'ils ont réussi à cibler des acteurs clés dans la société. Donc il y a par exemple en Égypte le procureur général. Donc il faut dire que la mouvance djihadiste a pu s'infiltrer parmi le service de sécuritaire et il a eu des informations qui est la personne ciblée et où il réside, par quels moyens et se déplacent et par quelle voie. Et donc, elles sont des informations très sensibles. Et ils ont pu cibler le procureur en bombardant sa voiture en plein rue. Ils ont filmé et après, ils ont pris la fuite. On peut aussi, pour montrer aussi, pour faire aussi la liaison avec l'attentat de l'agent de service de renseignement ici. Donc, il a fait aussi adopter la stratégie de l'eau solitaire. Et donc, il a pu savoir qui est la personne ciblée, le moyen, l'aide logistique et le passage à l'action. Mais il a raté une chose, c'est la fuite. Et pour conclure, on est devant une organisation qui se mobilise de manière permanente selon le contexte. Il y a toujours une conscience dans la mobilisation. L'État islamique est au courant et quand ils doivent s'implanter territorialement, quand ils doivent adopter la stratégie de l'eau solitaire pour affaiblir ou épuiser l'ennemi. Et après encore, cette conscience se trouve dans la mobilisation de l'organisation à toutes les échelles. Parce que celle-ci ne se réduit pas du tout à la violence politique. On a vu qu'il y a une violence qui se rassemble à un État classique. Et il y a aussi une mobilisation en tant que mouvement social qui essaye de séduire la population locale en faisant de conférences ou diffusant de tracts. Et après, l'affaiblissement de l'organisation et sa perte de contrôle ne signifie pas sa disparition. Au contraire, il y a une autre forme de reconfiguration. Je vous montre, par exemple, donc ici, la branche de l'Hezbollah. Comment ils veulent brûler les cigarettes confisquées. Après, le tribunal islamique de l'État de l'organisation. Donc, la personne, le djihadiste en charge de l'organisation de tribunal. La voiture de l'Hezbollah. Donc, qui se déplace pour voir est-ce que les gens s'inscrivent bien dans le cadre éthique djihadiste de l'organisation. Et après, c'est l'auteur de l'attentat de Manchester. Son frère, pendant son entraînement en Libye, par l'État islamique. Encore plus, il y a d'autres types de photos. Bon, pour vous montrer aussi le type de mobilisation, il y a le commissariat djihadiste de l'État islamique. Et après, comment ils veulent aussi montrer qu'ils présentent avant tout une sorte d'administration local djihadiste. Leur force policière. Okay. Et après, comment ils aussi veulent montrer ou véhiculer la représentation qu'ils mettent l'ordre au sein de territoire contrôlé. Encore, un mot de l'État islamique. Bon, Chotra Islamia, c'est la police islamique aussi. Après, c'est tout. Donc, ça montre aussi que aussi, il faut clarifier que l'État islamique n'accepte pas la présence d'autres forces sur le territoire contrôlé, ni islamistes ou outre. Donc, il y avait une rivalité pouvoir entre l'État islamique et la branche affiliée à Al-Qaïda sur place, parce que moi, je vois que l'État islamique est encore un mouvement novateur, dans le sens qu'il n'a pas la flexibilité de pouvoir établir des alliances selon le contexte. Donc, et quand l'État islamique a contrôlé surtout Sirte, donc c'était la ville la plus contrôlée par l'État islamique, il a poussé toutes les forces politiques à l'extérieur en tout contrôlant pour montrer qu'il y a une sorte de monopolisation de l'appareil étatique du territoire contrôlé. Voilà, donc je vous finis. Si vous avez des questions.
Par rapport à l'appellation multiréditaire, c'est vrai que c'est assez polémique parce que ça a été repris par l'extrême droite, notamment par Marine Le Pen, et ça fait un peu l'idée qu'une personne parviendrait seule, tout quel soit l'état que vous avez dit, en organisant seule. Et c'est vrai qu'on n'entend plus trop dans les. Enfin, aujourd'hui en France, c'est un terme qui est quand même pas mal abandonné. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez d'un point de vue totalement sémantique.
Moi, je vois que si on traite la question de l'islamisme ou du djihadisme, il ne faut pas politiser la question. Donc, il faut se dissocier de la propagande faite par le parti politique. Donc, il faut se concentrer avant tout comment l'acteur lui-même se présente. Donc, et quand je dis que c'est un terme médiatisé, mais la mouvance djihadiste l'appelle le djihad individuel. Donc, dans la stratégie, ça existe. Et ils ont fait référence au livre fondateur de la mouvance djihadiste pour pouvoir inciter les individus qui ne savent pas comment rejoindre un territoire contrôlé par une mouvance djihadiste de passer à l'action sur place. Donc la stratégie existe sur place et si on politise la question djihadiste, on aura énormément de sensibilité, on ne va jamais comprendre la question. Donc et pour moi, je vois qu'on doit présenter. Par exemple, je n'ai jamais dit que c'est un groupe terroriste, parce que c'est un cadre juridique avant tout. Mais je dis que c'est un groupe djihadiste parce qu'il se présente comme tel. Donc pour pouvoir enlever la sensibilité présente à l'entour de cette question, il faut savoir comment l'acteur se présente.
Mais même dans la forme de ces loups solitaires, donc on imagine c'est quelqu'un qui est complètement isolé, alors qu'en réalité, il est quand même sous la coupe de l'échappauté par plein d'organisations, que ce soit généralement sur le net. Je veux dire, il n'est pas seul. Le djihad est individuel, mais l'appellation, on entend qu'elle organise seule à la fin.
Mais l'isolation, comme je dis, c'est physique. Donc il est seul sur place. Mais le contact avec une hiérarchie qui essaie de lui montrer comment passer à l'action, et aussi de lui encadrer. Parce qu'avant tout, je vois que c'est une question idéologique avant tout. Donc quand on regarde donc, quelqu'un qui passe à l'action, comme l'auteur de l'attentat de Manchester, il a été convaincu avant tout que c'est la bonne idéologie et c'est la bonne stratégie ou la bonne mobilisation à faire.
J'avais une question à propos précisément de l'implantation de l'État islamique en Libye. Est-ce que ça peut pas être un danger supplémentaire qu'on sous-estimerait dans le sens où Tripoli, c'est quand même beaucoup plus facile d'y aller que d'aller en Syrie, par exemple. Si on veut rejoindre l'État islamique, on a quand même l'impression qu'il s'est plutôt rapproché du monde occidental en s'implantant en Libye par rapport à sa localisation au Levant.
Bon, il faut dire aussi que même si les États-Unis, on ne remarque pas trop sur la scène libyenne, mais il y a des forces américaines qui essayent aussi de limiter la mobilisation de l'État islamique. Par exemple, maintenant, il y a des forces qui s'appellent l'AFRICOM, je ne sais pas, vous le savez ou pas, donc c'est la force américaine. Qui sont en charge de sécuriser l'Afrique, surtout face à la présence de la mouvance djihadiste. Donc, par exemple, la question, ce n'est pas le nord, c'est la question, c'est le sud, actuellement. Donc, est-ce que l'État islamique, comme je dis, il se présente et vraiment, il y a de territoires tellement vastes dans le sud qui ne sont pas du tout contrôlables? Et qui essaye de combattre la présence de l'État islamique, c'est pas les deux pouvoirs en place, soit de l'Est, soit de l'Ouest, c'est le force de l'AFRICOM. Donc les forces américaines essayent de limiter et le dépassement de djihadistes présents en Libye vers l'Afrique, mais pas le Nord. Le Nord, c'est bien sécurisé.
D'État fort. Donc on l'a vu avec l'exemple de la Libye par exemple. Et qu'est-ce qu'il en est de l'Algérie voisine où en ce moment il y a une grave crise? Est-ce qu'il y a des risques à moyen long terme ou est-ce que on est loin de l'exemple libyen?
Bon, moi je dis toujours que où l'État fonctionne bien, il n'y aura pas de djihadisme qui contrôle le pays. Par exemple, l'exemple du Sinaï, c'est un problème qui date depuis très longtemps, mais c'était aussi un territoire vide. Donc, un territoire contrôlé par l'Égypte, mais qui n'était pas administré et qui n'était pas présent par l'appareil étatique. La Libye, c'était pareil. La Syrie, c'était pareil. L'Irak, c'était pareil. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y aura la même sorte de contrôle territorial en Algérie, sincèrement, ni en Tunisie. Donc le dilemme... Mais il faut dire aussi que la mouvance djihadiste a passé vers aussi une autre sorte de tournant qui est plus violent, qui va aussi vers la capitale. On l'a vu aussi à Tunis ou au Caire. Ce n'était pas du tout le cas... Et lors de l'apparition de la mouvance djihadiste dans les années 60 ou 70. Donc ils ont maintenant la compétence et la capacité de faire ou de passer à l'action dans des zones sensibles et aussi en ciblant des acteurs clés, comme par exemple les étrangers, et des cadres sécuritaires ou de personnel symbolique de l'État.
À peu près clair, il y avait certaines villes, certains territoires qui étaient contrôlés par Daesh en Libye. Maintenant, c'est plus très clair. Vous disiez que dans le sud, ils étaient présents, mais est-ce qu'ils contrôlent à proprement parler des territoires ou des villes ou pas? Et ma deuxième question, c'est on a vu que dans le Sahel, Daesh pouvait parfois collaborer avec d'autres groupes, ce qui était assez étonnant parce qu'en Syrie, ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que maintenant en Libye on observe un peu ça aussi, contrairement à avant, ou pas vraiment?
Bon, moi je ne suis pas spécialiste de l'Afrique noire, sincèrement, mais pour le pays arabe, je peux en parler. Donc, pour. Jamais vu. Bon, parfois, même en Syrie, il y avait certains types d'alliances, mais ce sont des alliances très conditionnelles avec Al-Qaïda, et selon les besoins. Vraiment, s'il y a. Et une sorte de pression de la part d'une force militaire conventionnelle, on a vu en Syrie que l'État islamique a pu établir une alliance et après, quelques mois plus tard, ils ont tué le cadre de ces groupes-là. Donc parfois, il y a des alliances, mais si on regarde la doctrine idéologique de l'État islamique, c'est pas du tout facile de faire des alliances. Au contraire de l'Al-Qaïda, par exemple, en Libye. Donc ils ont établi une sorte de conseil militaire donc, pour se confronter au pouvoir de Maréchal Haftar à l'Est. Et ils n'avaient pas de souci de s'allier avec des forces islamistes non djihadistes comme les frères musulmans.
Et donc aujourd'hui, ils ne contrôlent plus vraiment même au sud de territoire ou de ville.
Il n'y a pas vraiment une importance stratégique pour le sud.
D'accord.
Mais c'est, comme je dis, c'est un territoire vaste et toujours quand l'État islamique ou un mouvement djihadiste local depuis le début, quand il se trouve devant une pression sécuritaire, il doit trouver aussi une zone marquée par son espace énorme où il n'y a personne pour pouvoir se cacher. Si vous avez d'autres questions pour...
Bon, okay. J'ai une question à propos de la réaction des gens sur place. Est-ce qu'ils opposent une résistance à la plantation des groupes? Est-ce qu'ils collaborent avec eux? Est-ce qu'ils sont accueillis en héros? Ils sont vus comme des envahisseurs?
Et bon, ça dépend des mouvements, mais concernant l'État islamique, il n'y avait pas vraiment une admiration pour l'État islamique concernant le... la population locale, mais il n'y avait pas non plus la résistance demandée pour pouvoir envoyer le groupe affilié à l'État islamique. Mais il faut aussi faire aussi attention à une chose, que la population locale joue un rôle très important dans l'implantation de l'État islamique. C'est-à-dire que en Syrie, par exemple, ou en Irak, ou même en Libye, l'État islamique, quand il s'implante dans un contexte marqué par le vide étatique. Dans la plupart des pays arabes, il y a un système tribal fort. Donc même après la chute de l'appareil étatique, il existe quand même des tribus. L'État islamique essaie de réconcilier la relation avec les tribus pour montrer qu'on n'est pas contre vous, mais on essaie de faire une collaboration. Mais ce n'est pas du tout une collaboration. Ils essaient aussi de rendre ces tribus passives face à leur contrôle, à leur contrôle territorial. Donc, en Syrie, ou en Irak, ou en Libye, je vois que le rôle passif de tribus joue un rôle. Et ce qui était évident, que le maréchal Haftar, par exemple, qui était soutenu par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, quand il a voulu s'implanter, il n'avait que 800 soldats. C'est rien. Il n'avait pas même d'aide logistique. Mais pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été soutenu par l'Égypte. L'Égypte, elle a convoqué toutes les tribus de l'Est. Ils ont dit, il faut mettre fin à la présence de l'État islamique. Ils ont fait cette alliance. Après, ils ont aussi fait la promesse avec le maréchal Haftar. Et depuis ce moment-là, il n'existait pas l'État islamique. Ça montre une chose, que à partir de ce regard géopolitique, il faut faire toujours les liens entre la mobilisation de l'État islamique et le contexte local, pour pouvoir comprendre. Donc la mobilisation de l'État islamique doit se compléter par le climat, permissif ou pas, qui l'entoure. Okay. Si vous avez d'autres questions, je vous en... Bon. Je vous remercie beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup. Hein? Oui, ça va, tu viens?
Ah, t'as bien, oui, désolé,
c'est
pas grave.
Non, non, c'est
pas grave. Je sais pas que c'est toi qui fais la conférence.
C'est bon? Est-ce que vous avez des références à me conseiller? Vous savez que vous avez l'air d'avoir un regard.
Tu es une arabe ou pas?
Non.
D'accord, donc
mais
tu
veux. Pas encore, mais je lis l'alphabet.
Ah, d'accord, tu veux te spécialiser sur quel moment?
Juste la situation en Libye, pour l'instant, ça m'intéresse. Tout ce qui est Sahel, genre...
Il y a, elle s'appelle Aaron Zelen, qui a parlé, qui a fait aussi des ouvrages en anglais.
Bonsoir.
Bonsoir. Il a fait vraiment de beaux ouvrages.
Mm-hmm.
Tu peux avoir des références encore. Ouais. Et c'est la meilleure.
C'est la meilleure. Ok.
Parce que, aussi, comme je dis toujours, il y a une sorte de politisation de la question. Et c'est pour ça que je suis à Arbison. Donc, je peux te dire que... Et chaque camp essaie de légitimer médiatiquement sa position. Donc, tu vois énormément d'insultes dans les médias et il faut se méfier à tout ce qu'ils disent. Non, mais si tu commences par Aaron Zelen, c'est vraiment magnifique.
Ok, bah, ouais. Merci beaucoup. Ouais. En
tout cas. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Bien? Non, 17h, non, c'était pas. C'est à Manon, je pense. Je suis comment je.
Ah, bah, du coup,
ah, mais.
C'est en direct.
Ouais. Ah, c'est nul. Mais comment arrêter ça? Ah, mais j'ai resté 53 minutes. Alors, je vais monter.
C'est-à-dire, tu veux... Oui, pour faire des phrases par ta famille, c'est ça?
Ça, ouais.